le 13-14. Bruno Duvy.
C'est un cri d'alarme lancé par un homme qui connaît parfaitement le monde de la finance. Georges Hugeux, ancien vice-président du New York Stock Exchange, la bourse de New York, publie chez Odile Jacob « Wall Street à l'assaut de la démocratie ». Démonstration d'une déconnexion entre l'économie réelle et les marchés financiers. Alerte sur la crise d'endettement qui nous menace, et cela part de l'actualité immédiate, la pandémie et le quoi qu'il en coûte pour lutter contre ses effets appliqués en Europe et aux États-Unis en particulier. Cette formule a des conséquences qu'on ne mesure peut-être pas tout à fait. Les politiques, les citoyens ont-ils un tant soit peu la main sur les marchés financiers, 13 ans après la crise des subprimes, ou est-ce un combat perdu? J'attends vos questions sur l'appli France Inter, rubrique Réagir. Bonjour Georges Hugeux.
Bonjour.
Aujourd'hui, vous enseignez la finance à l'Université de Columbia et vous avez fondé une société de conseil, Galileo Global Advisors. Partons de l'actualité politique, si vous voulez bien. En France, l'ancien Premier ministre Édouard Philippe s'apprête à lancer sa formation politique. Et dans une interview au magazine Challenge la semaine dernière, il faisait de la dette l'un de ses principaux combats. Cette dette s'est considérablement creusée aux États-Unis, en Europe, en France, au fil des mois de crise sanitaire. Alors soyons très concrets, quand un gouvernement a besoin d'argent qu'il n'a pas en caisse, vers qui se tourne-t-il ?
C'est extrêmement variable et pour les États-Unis, ce n'est pas la même chose que pour l'Europe. Particulièrement aux États-Unis, il y a une dépendance par rapport aux capitaux étrangers. Mais dans cette crise de pandémie, ce qu'on a vu, c'est que l'explosion de la dette de près de 5 000 milliards de dollars n'a pas été...
Il y a des chiffres absolument étourdissants dans ce livre. 5 000 milliards de dollars.
5 000 milliards, rien que pour les États-Unis. Pour l'ensemble du monde, c'est 16. Et pour savoir, 9 d'entre eux sont dans les coffres des banques centrales. Pourquoi ? Parce que c'est la Federal Reserve qui a souscrit au manquant, parce que les investisseurs étrangers commencent à se méfier légèrement, c'est le moins qu'on puisse dire, d'autant plus que les taux d'intérêt ne sont pas très bons.
Donc la banque centrale endosse la dette de l'État, elle crée de la monnaie à partir de rien ?
Absolument, elle fait ça à travers son bilan, comme une banque. La seule différence, c'est quand une banque crée de la monnaie, elle doit augmenter ses fonds propres et elle doit le faire d'une manière plus ou moins réglementée et organisée. La banque centrale peut émettre le papier ou imprimer la monnaie, comme on dit, de toutes les manières qu'elle veut. Le seul problème que l'on a, c'est que ce phénomène est un phénomène qui a décuplé depuis 10 ans, donc le bilan des banques centrales il y a 10 ans après la crise de Lehman était de 5 trillions, on est à 50. Et donc ces montants sont phénoménaux et il n'y a évidemment pas de politique de sortie. Il n'y en avait pas quand on a fait ce qu'on appelait les quantitative easing. Oui. Et il n'y en a certainement pas après la pandémie.
Ces liquidités, que deviennent-elles ensuite ?
Alors le problème est effectivement de savoir où vont-elles. Alors le principe, et c'est très clair, les banques centrales veulent redynamiser l'économie, oui. Veulent faire le nécessaire. Nous sommes entrés dans une phase où malheureusement, la théorie monétaire selon laquelle vous allez pouvoir, si vous faites ça, faire baisser les taux d'intérêt, les gens vont emprunter, c'est avéré, ne pas réussir. Pourquoi ? Parce que nous ne sommes plus dans un niveau de 7 ou 8% de taux d'intérêt. La question, c'est de savoir si entre 0,50 et 1%, il y a une différence. Donc, si vous voulez, quelque part, ils ont continué une politique alors que la théorie sur laquelle il basait pour créer de l'inflation et créer de la reprise, s'est avéré ne pas réussir. Et ce qui s'est passé, de manière globale, et c'est vrai depuis 10 ans, il y a une corrélation entre la croissance de l'indice boursier des États-Unis et les interventions des banques centrales. Donc ce sont elles qui font le marché.
Nous avons une bulle au fond des liquidités qui, singulièrement, ces derniers mois, ont inondé l'économie, alors qu'au fond, on n'avait pas d'occasion d'utiliser ces liquidités puisque l'économie était à l'arrêt. C'est ça le phénomène de bulle ?
Oui, et puis en plus parce qu'on a fait beaucoup très vite. Je vais vous donner un exemple.
Oui. Vous ne dites pas qu'il ne fallait pas intervenir, évidemment, mais il ne fallait pas intervenir autant et si vite.
Il fallait tester avec, mettons, un trillion. Vous savez, la Federal Reserve, en 6 semaines, a mis autant d'argent que pendant les 10 années de quantitative easing avant. Alors la question, c'est...
En 1 mois et demi, autant qu'en 10 ans.
Exactement. Et donc la question, c'est de se dire, par rapport à ça... il n'était pas possible, ni même imaginable, que ce qu'on appelle la transmission monétaire aille vers l'économie réelle. Comment plus ils ont baissé les taux d'intérêt ? Il n'y avait plus qu'un endroit pour avoir un rendement, c'était la bourse. Et la bourse a augmenté de 150%.
Ce qui fait tenir le système, c'est donc, à ce stade, des taux d'intérêt très bas. L'inconvénient de ces taux d'intérêt très bas, ils facilitent la vie de ceux qui empruntent, mais au détriment des épargnants.
Alors c'est extrêmement clair, par exemple, si un particulier, je dirais qu'il n'est pas très riche, a un peu d'argent à mettre de côté, il va avoir 0% de rendement, puisque les banques ne payent plus de rendement et que, comme vous le savez, les obligations en Europe sont pratiquement négatives. Comment vivre ? Quel va être le problème ? C'est le problème de l'épargne, c'est le problème des fonds de pension et c'est le problème des compagnies d'assurance-vie. Il n'y a pas moyen de vivre avec un système dans lequel on ne rémunère pas le risque et la durée. Et donc, à partir de ce moment-là, effectivement, les banques centrales ont exproprié, certains diront taxé, les épargnants au bénéfice des emprunteurs, dont la principale masse est eux-mêmes, c'est-à-dire les gouvernements.
Il y a donc des inégalités qui, par le biais de ce mécanisme qu'on décrit depuis quelques minutes, sont en train de se creuser de manière très importante.
De manière extrêmement importante, d'autant plus que, je dirais, le pourcentage de la population qui a accès à ce type d'investissement est un pourcentage qui est limité. Aux États-Unis, c'est 50%, mais en Europe, c'est beaucoup plus proche de 25 ou 30%.
On parle de l'épargne accumulée, notamment en France, au fil des mois de pandémie. Pourquoi ces épargnants n'ont-ils pas accès aux marchés financiers ?
Ils ont accès aux marchés financiers. Seulement, le problème qu'ils vont avoir par rapport à ça, c'est que pour une grande partie d'entre eux, c'est une plotte. En se disant pour les jours qui seront plus difficiles. N'oublions pas que nous parlons quand même de beaucoup, d'une population importante qui, elle, n'a pas ce luxe-là. Alors, comment on ne pouvait pas consommer? Ils l'ont fait, ils l'ont déposé en banque, ils ont pris des obligations et ils ont attendu. On a vu les caisses, vous l'avez vu, les livrets d'épargne ont explosé.
Absolument.
Il n'y a rien sur les livrets d'épargne. Il n'y a pas de rendement.
Est-ce que les États ont, à court, moyen ou long terme, est-ce qu'ils sont en mesure de rembourser la dette ? Et est-ce un problème s'ils ne sont pas en mesure de la rembourser ?
Alors, il y a deux types de mesures auxquelles je pense, et je dirais presque comme pour un ménage. Il y a ce que ça vous coûte et ce que ça vous rapporte. Alors, les dépenses sont évidemment un sujet extrêmement important. Je dirais que là, aux États-Unis, nous sommes devant quelque chose de monstrueux, c'est-à-dire qu'on dépense 750 milliards par an de dépenses de défense, c'est-à-dire la même chose que les 10 autres pays pris ensemble, compris la Chine. Donc, nous avons des dépenses absolument incroyables pour la défense ou pour le mur de Monsieur Trump, ou maintenant, pour toute une série de dépenses, d'infrastructures que le gouvernement veut faire. Donc, cet élément-là, il faut diminuer ce qui peut être diminué. J'aimerais beaucoup croire dans un monde où on dépense au niveau mondial la moitié de ce qu'on dépense en matière militaire.
Premier point.
Deuxième élément, il faut des rendements. Et là, nous vivons maintenant un phénomène sur lequel il faut être extrêmement clair. Le taux moyen, à travers le monde, de l'impôt payé par les sociétés a diminué de 75%. Ils ne payent plus, et comme ils ont en plus des subsides, les grosses sociétés ne payent pratiquement pas d'impôts. Résultat, la contribution nette des entreprises au budget de l'État dans l'OCDE, donc les pays les plus développés, est inférieure à 10%. Et où ça se trouve ? 50% dans la TVA et dans la consommation, et 30 à 35% dans la taxation des salaires. Donc, on a shifté aussi, c'est la même chose.
Shifté, déplacé.
Déplacé. On a déplacé, exactement comme on l'a fait dans les banques centrales, on a déplacé la charge vers le particulier au détriment, pour l'avantage
des sociétés.
Oui. Là, il y a heureusement de bonnes nouvelles, c'est-à-dire qu'il y a maintenant une tentative d'établir des niveaux minima d'impôts mondiaux qui vont peut-être permettre de progressivement corriger les choses.
Tentative, dites-vous, vous croyez à l'application à court ou moyen terme ?
J'essaie d'être optimiste. Je crois que le niveau dont on parle pour le moment, même pour les Irlandais, 15%, est un niveau tolérable. Il faut commencer quelque part. On pourrait, et c'est un des gros problèmes qu'on a pour le moment, on peut toujours rêver de pouvoir faire mieux et plus, mais au moins, pour la première fois dans l'histoire, d'avoir une harmonie à l'intérieur du G20 sur des taux minimums et sur les fameux taux qui, eux, sont sur les revenus pour les GAFA,
oui.
Ce sont des pas de géant. J'aurais vous raconté ça il y a un an, vous m'auriez demandé ce que j'ai bu.
Et vous ne l'auriez pas cru vous-même ?
Non plus.
Vous diriez qu'à travers le mécanisme qu'on a décrit, au fond, les gouvernements, les États se sont mis dans la main des marchés financiers ?
En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a une collusion qui s'est, j'appellerais ça une alliance objective, disons, qui s'est établie entre les entreprises, et les pouvoirs publics. Parce que ce dont je viens de vous parler, la politique des banques centrales et la baisse des impôts, ce sont des actions d'État. Donc, c'est tout le lobbying et toute la collusion qui existe entre les grandes entreprises, pas les petites et moyennes entreprises, et les États. Face à ça, effectivement, ce qu'il y a en face, et qui est, je dirais, la population, mais qui est l'électeur, est très mal informé et ne comprend pas ce qui explique que, finalement, l'idéologie américaine, qui date des années 70, et qui est tout pour l'actionnaire, est une idéologie qui est absolument intolérable en Europe.
Question de Fabrice pour vous, Georges Jugeux, sur l'appli France Inter. La dégradation des finances publiques est la conséquence de la crise de 2008, qui était elle-même le résultat d'un surendettement d'agents privés. Peut-on dire qu'on a socialisé la dette ?
On a socialisé la dette dans la mesure où on n'est plus en mesure de le rembourser. Et donc, ce que l'on a fait, c'est que cette dette est allée se retrouver. Mais, comme nous l'avons dit, elle ne s'est pas retrouvée chez le particulier. Oui. Elle s'est retrouvée dans les banques, elle s'est retrouvée dans les banques centrales, elle s'est retrouvée dans les institutions financières.
De la difficulté de réglementer ces marchés financiers, ce que vous expliquez, c'est qu'au fond, ils sont fragmentés. On ne peut pas mettre en place une instance de contrôle unique et efficace.
Et effectivement, le résultat, c'est que nous avons des tranches de régulation. Voilà. Donc vous avez les régulateurs des banques, des compagnies d'assurance, des fonds de pension, etc. Y compris au niveau européen et au niveau américain. Le problème, c'est qu'il faut réglementer le marché. Or, chacun d'entre eux intervient sur le marché. Mais le marché lui-même n'est pas réglementé. Oui. Et donc il va falloir horizontaliser la régulation pour que tout le monde joue selon les mêmes règles.
Est-ce que vous croyez aux investissements vertueux, aux produits financiers qui tiennent compte de l'écologie, de la dimension sociale d'une entreprise ? Est-ce que ce type de placement-là va prendre de l'importance ? Un exemple, sous pression des citoyens, un exemple, les universités américaines renoncent les unes après les autres à investir dans les hydrocarbures sous pression des actions étudiantes. Est-ce que vous croyez à ce type d'investissement vertueux, à son développement, à leur développement ?
Écoutez, c'est une des choses les plus surprenantes que l'on peut imaginer. C'est la première fois dans l'histoire des marchés que se crée un mouvement qui vaut aujourd'hui, rien qu'en fonds d'investissement, 7 000 milliards de dollars, dont la moitié aux États-Unis et la moitié en Europe, essentiellement, qui sont investis avec ça comme objectif. De nouveau, on n'est pas dans la perfection, ce n'est pas imparfait. La deuxième chose qui est importante, c'est que heureusement, la jeune génération nous a poussé dans nos retranchements sur les problèmes de climat. Or, le financement de la transition énergétique va devoir se faire par les marchés. Donc, il y a maintenant un cercle vertueux qui se crée. Donc, il y a des bonnes nouvelles.
Ah ben voilà, une note d'espoir. On va terminer là-dessus. C'est encourageant. Il y a des bonnes nouvelles.
Il y a des bonnes nouvelles. Donc, la troisième bonne nouvelle étant la révision fiscale. Et donc, il y a, pour le moment, des mouvements, et je peux vous dire que même aux États-Unis, aussi étonnant que ça puisse paraître, sortent des livres remarquables par des gens qui sont des vrais leaders d'opinion, qui disent « les marchés et le secteur public ont vécu une coalition d'intérêts et ont abandonné la population, ça ne peut pas continuer ».
Merci beaucoup Georges Jugeux d'être venu dans le studio de France Inter Wall Street, à l'assaut de la démocratie, c'est publié chez Odile Jacob. Merci encore.